Voici venu le temps de Totémique avec vous, Rebecca Manzoni. Et ce matin, vous partez à la rencontre de Rachida Brakni, comédienne et autrice.
Autrice, oui, puisque dans quelques jours, Rachida Brakni va publier son premier roman. Et son titre tient en un mot, en un nom même, c'est Kadour.
Kadour, c'était le prénom de son père, Kadour Brakni, qui avait quitté l'Algérie pour la France et qui a longtemps espéré retourner vivre dans son pays.
Alors Rachida Brakni en fait le portrait et pour ce matin, elle m'a donné rendez-vous dans un café fait de son quartier, avec quelques photos en tête, elle fait les présentations de la famille.
Sur le téléviseur de la chambre de mes parents, il y a mon frère et moi, ma petite sœur, et de part et d'autre, il y a la photo de ma mère, qui a été prise en Algérie. C'était au moment de son premier mariage, elle avait 18 ans, et de l'autre côté, une photo de mon père, que j'ai moi-même réalisée il y a une vingtaine d'années.
Une échappée de Totémique avec Rachida Brakni. Entre la France et l'Algérie, c'est parti. Le livre commence dans un train qui file vers Paris. Nous sommes le samedi 15 août 2020. Rachida Brakni rejoint sa famille. Kadour, son père, vient de mourir. Le récit se termine le jeudi 20 août 2020, jour des funérailles de Kadour Brakni en Algérie. Funérailles auxquelles mère, fils et fille assistent à distance puisque nous sommes en pleine pandémie de Covid. Entre ces deux dates, Rachida Brakni tresse le portrait d'un homme né à Tipaza, arrivé à Marseille à 18 ans avant de vivre à Nancy, puis dans la banlieue parisienne comme ouvrier de chantier, ouvrier d'usine et routier. Cette histoire est celle de Kadour Brakni, mais aussi celle de toute une génération et des enfants qu'elle a eus ici. Kadour, premier roman de Rachida Brakni, est le récit de plusieurs liens. Le lien entre la France et l'Algérie, le lien entre un homme et la femme qu'il aime, le lien entre un père et sa fille. Je rejoins Rachida Brakni dans un café du quartier où elle vient d'emménager avec mari et enfant. La musique est à fond, on demande à l'éteindre pour discuter et pour se mettre autre chose dans les oreilles aussi.
Totémique. Rebecca Manzoni sur France Inter.
C'est le moment d'écouter de la musique.
Celle de Rachid.
Ouais. Pour ce matin, Rachida Brakni a choisi Ya Khaya par Rachid Tahar.
Tout le monde danse sur cette chanson. Et c'est une chanson hyper triste en fait. C'est une chanson hyper triste sur l'exil. Mais en même temps, c'est pas mal hein, qu'elle soit entraînante parce que c'est une façon aussi de ne pas s'effondrer. شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي. Ceux qui ne parlent pas cette langue ne savent pas que c'est l'histoire d'un homme qui est parti de chez lui et qui raconte à quel point c'est douloureux l'exil et à quel point on s'imagine pas avant de partir que ça va être si difficile. Et que peut-être si on se l'était représenté, on réfléchirait à deux fois avant de partir. Et qu'on finit toujours par revenir.
Mais il faut continuer à danser sur cette chanson.
Il faut continuer à danser sur cette chanson et qu'on pense pas d'ailleurs que Rachid Tahar, puisque c'est une reprise, qu'on ne pense pas que c'est lui qui lui a donné ce petit côté, parce que même l'original de Dahmen al-Harachi, qui est celui qui a écrit et composé, elle est aussi entraînante. Il y a un mot que j'adore en italien, c'est bella figura. Et j'adore cette expression, bella figura, et en toutes circonstances. Et j'adore le fait qu'une chanson qui soit aussi triste, parce qu'il m'arrive moi aussi, alors évidemment dès que j'entends les premières notes, je me lève et je me mets à me déhancher, mais parfois elle m'émeut et elle me fait pleurer, et forcément un peu plus depuis la mort de mon père, mais j'aime bien, j'adore ceux qui s'appesantissent pas sur eux et qui par fierté, qui par orgueil, ouais, bella figura. C'est un beau mot, je trouve.
Elle est chocolat, casino, elle est chocolat, qui s'avoue.
les mots, ça représente quoi ?
Les mots en arabe ou en français ?
En français d'abord et en arabe ensuite.
Alors, les mots en français, c'est l'armure. C'est
L'armure ?
Ouais. Les mots en français, c'est les mots qui me permettent de me défendre, d'être aussi le porte-voix de mes parents. Parce que depuis mon plus jeune âge, étant l'aîné, c'est moi qui m'occupais de tout ce qui était, on va dire, chargé de tout l'administratif, voilà, qui ouvrait les courriers, qui faisait les démarches administratives pour eux. C'est ma mère qui s'occupait surtout de ça, mais j'ai le souvenir comme ça d'un rendez-vous à la poste, puisqu'elle avait son compte, enfin, elle a son compte en banque à la poste. Et ma mère emmenait toujours tous les papiers. Les papiers, c'est une obsession. Et là, je la vois, on lui demande un document et elle cherche dans son sac. Et le banquier, déjà la tutoie, ça m'insupporte, et lui dit « Oh, quand même, tu pourrais ranger mieux ton sac. » Et je crois que dès mon plus jeune âge, je me suis dit « Eh ben, ma cocotte, tu vas te bouffer toute la littérature française. » Et les mots, oui, c'est ce qui nous permet, voilà, de mettre un sentiment, d'affirmer un refus, de m'affirmer. Oui, la langue française, les mots, c'est une carapace extraordinaire.
Et les mots arabes, alors ?
L'arabe, pour moi, c'est l'enfance. C'est la rondeur. C'est un fil. C'est un peu un... Oui, ce serait le fil d'Ariane, en fait. C'est celui qui me permettra de ne pas me perdre. De ne jamais oublier de là où je viens. Et d'une certaine façon, c'était le seul héritage qu'il pouvait me transmettre, mon père. C'était la langue. Parce que quand mon frère et moi, quand on était enfants, on ne parlait qu'arabe à la maison. Mais ce n'est pas une langue qu'on parle à l'extérieur. Déjà parce que, tout simplement, c'est une langue qui n'a jamais été valorisée. C'est étrange, d'ailleurs, quand on entend des gens parler en anglais, on trouve ça toujours très cool. L'arabe, c'est moins cool. Mais j'étais heureuse, moi, de pouvoir la parler, cette langue, à la maison. Et ma sœur, qui a 10 ans de moins que moi, et qui a passé beaucoup de temps avec mon père, je rentre à la maison et je l'entends parler en français avec elle. Et ça me rend triste, en fait. Ça me rend triste parce que je me dis, cet homme, il a tout quitté. Et le temps est passé. Il pensait un jour retourner dans son pays. Et puis finalement, il n'y est jamais retourné à mesure que les enfants grandissent. Et je le vois, finalement, émigrer une deuxième fois à travers la langue. Et ça m'a beaucoup peinée parce que je me suis dit, finalement, il est dans cette espèce de zone grise entre deux territoires physiques, la France et l'Algérie. Et la langue, c'est un territoire mental. On peut rêver dans une langue. Est-ce que mon père rêvait en arabe ? Est-ce que dans sa tête, quand il marchait, il se parlait à lui-même en arabe ? Et là, tout d'un coup, de l'entendre parler en français avec ma sœur, en fait, ça m'a fait, avant tout, je crois, de la peine pour lui. Plus que le fait de me sentir dépossédée de quelque chose. Même si j'ai ressenti ça, évidemment. Je me suis sentie, moi aussi, par ricochet, être dépossédée de quelque chose.
Alors, moi, j'ai découvert, en lisant ce livre, qui s'intitule Kadour, qui était le prénom de votre père, j'ai découvert aussi l'origine de votre prénom,
oui,
qui est Rachida.
Oui.
Et j'aimerais que vous l'expliquiez, là, cette origine.
Mon prénom, je l'ai longtemps détesté. Il m'a fallu du temps pour l'aimer, jusqu'à ce que je comprenne, en fait, que ce prénom vient du village de mon père, qui s'appelle Sidi Rachid, et qui se trouve à quelques kilomètres de Tipaza. Et pendant la colonisation, ce village s'appelait Montebello. Et il a été rebaptisé, il a retrouvé son nom d'origine à l'indépendance de l'Algérie. Et il a retrouvé, voilà, son nom, qui est donc Sidi Rached. Et mon père m'a nommé en mémoire de l'endroit dans lequel il est né.
Mais pourquoi vous le détestiez au départ, ce prénom ?
Ah, je le détestais pour plusieurs raisons. La première, c'est que je trouvais qu'il ne s'était pas beaucoup foulé. Je trouve qu'il y a quand même de très très beaux prénoms arabes. Et en fait, Rachida, c'est un peu l'équivalent de, je sais pas moi, Germaine ou Françoise. Et il y a toute une génération de Rachida, de Farida, de Jamila. Alors encore, Jamila, ça passe parce que Jamila, c'est un prénom qui a beaucoup été donné en hommage à Jamila Bouhered, qui était une figure de l'indépendance algérienne. Donc ça, je le conçois. Mais moi, je n'avais pas les éléments, ce pourquoi on m'avait appelée Rachida. Donc je ne l'aimais pas parce que je trouvais que c'était un prénom de vieille. Et peut-être aussi que quand on est enfant, enfin en tout cas en l'occurrence pour ma part, bah j'avais envie d'avoir un prénom qui existait dans le calendrier. Je voulais avoir ma fête en fait. Et j'avais trouvé un prénom dans le calendrier et c'était la Saint Edwige. Oui, parce qu'en fait, on a envie d'être appelée comme tout le monde. Alors déjà, petite, on va dire que je ne faisais pas partie des canons de beauté. Il y avait Romy, tout le monde était amoureux de Romy. C'était la blonde avec des grands yeux verts.
Ça, c'était une gosse de la classe ?
Ouais. Et j'avais envie d'avoir les cheveux raides comme elle. J'avais envie... moi, je voudrais ressembler à Romy et je voudrais avoir un prénom qui fait rêver.
Le prénom du père de Rachida Brakni, c'était Kadour. Kadour est devenu le titre de ce premier roman. L'histoire d'un Algérien qui ressemblait à Louis de Funès. Il en avait le nez, le front haut et même le caractère, impétueux et bouillonnant. Dans Kadour, Rachida Brakni écrit « Tu es comblé de bonheur lorsque quelqu'un note la ressemblance. » Pour preuve, tu racontais comment, sur le parking de l'enseigne Euromarché, une femme t'avait abordé pour te demander un autographe. Tu ne t'es pas démonté, te prêtant au jeu avec malice. Pendant quelques secondes, tu as été un autre, passant du statut de travailleur immigré à celui de star de la comédie. Incapable d'écrire quoi que ce soit, tu as juste gribouillé avec aplomb, non sans prendre soin de cacher ta main amputée de ses deux doigts. Lorsque la femme t'a remercié, tu t'es trahi par ton « de rien » débordant de ton accent algérien. Elle avait pris ses jambes à son cou face à ce fou, sans que tu en sois affecté. Je t'avais fait remarquer que ce n'était pas très gentil de t'être payé sa tête. Ce à quoi tu m'as répondu, et alors, il ne faut pas être très malin non plus pour penser que Louis de Funès fait ses courses à l'euromarché d'Atis-Mons. Lui s'appelle Bastien Lallemand, l'anonymat est une chanson extraite d'un nouvel et bel album à venir.
Pas à pas, quand je te suis dans l'aube, j'avance comme une ombre. Me mélangeant aux autres ombres, tu n'y vois que du feu, je m'approche, pourtant si près de toi, à te toucher du doigt, mais la foule. Thank you.
Kadour. C'est un premier roman autobiographique où Rachida Brakni fait le portrait de son père et du lien qui existait entre eux. Dès les premières pages, elle évoque son métier de comédienne et revient sur tous ces moments où, pour éprouver du chagrin ou de la tristesse dans une scène, elle s'imaginait la mort de son père.
Bon, après, les comédiens, c'est des monstres. Hein. Ils sont capables de tous les coups possibles et imaginables pour pouvoir provoquer quelque chose qui pourra servir une scène, un moment. Et c'est vrai, ouais, je reconnais, je l'ai ouais, plus d'une fois fait mourir. Mais à chaque fois, je m'en voulais d'ailleurs, hein, que j'avais recours à cet artifice. Je m'en voulais, c'était comme si, aussi un peu de façon superstitieuse, je me disais, je vais précipiter sa mort, et je me disais, tu recommenceras pas. Et comme une camée, finalement, je finissais toujours par y retourner. Mais tout ce que j'avais imaginé, tout ce que j'avais... toutes ces scènes que j'avais jouées, c'était rien à côté de ce que je pouvais ressentir par rapport à sa perte qui était bien là et bien réelle. C'est quelque chose que finalement on ne peut pas reproduire.
Ce récit, Kadour, il est scandé en 5 chapitres qui correspondent à 5 jours.
Oui.
Le samedi 15 août où vous apprenez le décès de votre père et le jeudi 20 où vous assistez à distance à ses funérailles en Algérie parce qu'on est en pleine pandémie de Covid.
Oui.
Est-ce que l'écriture est venue facilement ?
Alors, il y a eu quand même le livre d'Annie Ernaux, La Place, que j'avais lu très jeune, qui avait vraiment été comme une sorte de déflagration pour moi. Et
où elle parle d'ailleurs de son père, où son père est central dans ce roman.
Et c'est en fait à partir de la lecture de ce livre, ça a été vraiment pour moi une déflagration parce que il y a quelque chose qui parlait de moi et qui parlait de mon père. Et ça m'avait troublée parce que je m'étais dit, c'est fou, avec cette femme, on a peu en commun, on pourrait dire, ni l'âge, ni nos origines, ni le parcours, rien. Et pourtant, il y a quelque chose qui résonne. Et c'est à partir de la lecture de ce livre que j'ai commencé à véritablement m'intéresser à l'histoire de mon père. Puisqu'en fait, mon père, je m'étais assez peu souciée de ce qu'avait été sa vie avant d'arriver en France. Et donc, ouais, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé vraiment à l'interroger de façon insistante. Alors évidemment, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de silence. Et à partir de là, quand mon père est mort, ce fameux 15 août, peu de temps après, j'ai eu un besoin comme ça, impérieux, de raconter l'histoire de cet homme. Je me rendais compte que, en étant fille d'immigrés algériens, j'avais finalement réduit mon père à sa condition d'immigré et à rien d'autre, à cette espèce de groupe social, voilà, qu'on appelle les immigrés, sans me soucier véritablement de ce qu'avait été sa vie, sans lui donner de la chair, sans qu'il ait aucune aspérité. Et le devoir que je me suis imposé, c'est de ne jamais chercher à enjoliver ou à en faire un homme sans zone d'ombre. Par exemple, j'aurais très bien pu taire le fait que mon père, je me suis durement affrontée avec lui à un moment donné parce que j'allais jouer un film dans lequel j'interprétais une harkie. Et mon père l'a pris très très violemment. Il refusait que j'endosse cette identité-là. Et on s'est vraiment durement affrontés. On ne s'est pas parlé pendant des mois. Et l'égard que j'ai pour lui m'oblige à en faire un portrait sans concession, mais qui est sous-tendu par l'amour, je crois, vraiment.
Un jour, une voisine vient sonner à la porte de la famille Brakni. Cette femme vient voir le père et la petite Rachida parce qu'elle parle au garçon. Or, c'est une fille, sa place n'est pas dehors, et dans le quartier, les gens vont jaser. La gamine observe la scène à travers la porte entrebâillée de sa chambre, et elle raconte... Après un long silence et avant de claquer la porte au nez de cette femme, tu lui as rétorqué « Je ne sais pas de quelle fille vous parlez, je n'ai que des garçons. » Tu ne t'en souviens probablement pas, mais ce jour-là, j'ai mesuré la chance que j'avais de t'avoir pour père. Ça n'était pas faire insulte à mon sexe, au contraire, tu m'en avais affranchi, en m'érigeant à l'égal d'un homme. Cette offrande sera la clé de voûte qui définira et déterminera mon rapport au monde. » Ces scènes d'enfance et d'adolescence se mêlent au présent dans le livre. Et le concret du présent, c'est organiser les funérailles de cet homme, décédé un 15 août, en pleine pandémie de Covid et dont le vœu est d'être enterré dans le pays où il est né, l'Algérie. Tout le livre, au passé comme au présent, est tendu par l'urgence.
Est-ce que son corps va pouvoir partir ? Et ça, on vit quand même, je vis avec ça pendant plusieurs jours parce que toutes les informations qu'on me donne sont contradictoires. Certains me disent qu'on peut l'accompagner, d'autres me disent que personne ne pourra l'accompagner ou peut-être un accompagnant. Et oui, évidemment qu'il y a cette urgence due à la situation sanitaire et aussi parce que sa vie n'a été que dans l'urgence. À un moment donné, quand on est à Tipaza et que... j'ai la sensation de pouvoir lui restituer une partie de son histoire parce qu'il a beau être né à Tipaza, il a beau avoir passé les premières années de sa vie jusqu'à ses 18 ans, mais il connaît ni le tombeau de la chrétienne, il connaît pas les ruines romaines, il connaît pas tout ça. Et moi, je suis, enfin, au départ, je suis hyper fière de pouvoir lui raconter ça. Et je prends conscience que c'est pas qu'il s'en fout, mais c'est secondaire pour lui parce que. Il ne s'est jamais vraiment interrogé là-dessus, sur ce qu'était finalement l'histoire de l'endroit dans lequel il est né. Parce qu'il y avait cette nécessité, cette urgence impérieuse de tout simplement se nourrir et survivre. Donc le récit nécessite cette urgence. Je trouve que c'est intéressant aussi d'avoir toujours en tête comme ça cette chose qui est en mouvement.
Écrire ce livre, j'ai le sentiment que c'est l'occasion d'imaginer.
Oui.
De le visualiser, arrivant à Marseille,
oui.
Débarquant d'Algérie.
Mmh.
Là, vous êtes dans la fiction, en fait.
Complètement. Quand il arrive à Marseille, il m'avait parlé de ce bar tenu par un réfugié espagnol. Donc, avec les maigres éléments dont je dispose, j'essaie de mettre des mots à ces points de suspension. Et évidemment que je brode, comme je brode, j'essaie de l'imaginer pour avoir tourné à Tipaza. En regardant ces champs, je l'ai imaginé cueillant des fruits, travaillant, où est-ce qu'il pouvait dormir, sous quelle porte cochère, où est-ce qu'il trouvait refuge, ou plus loin, même en France, puisque je sais que lors du 17 octobre 1961, il a marché comme des milliers d'Algériens. Et durant cette marche, 200 Algériens ont fini noyés dans la Seine. Et mon père n'a jamais voulu me dire ce qui s'était passé. Donc j'essaye d'imaginer, voilà. C'est comme une aquarelle qui m'aurait légué. C'est tellement dilué à l'eau qu'il faut faire preuve d'imagination pour tenter de reconstituer une cartographie, des visages, des événements, enfin tout un tas de choses, quoi. Et ça, c'est chouette avec l'écriture, c'est qu'il y a évidemment les faits, tout simplement les faits. Et à côté de ça, vous avez une matière que vous pouvez, malaxer et lui donner la forme que vous voulez, mais tout en sachant que ça doit quand même malgré tout être cohérent par rapport à tous les éléments dont vous disposez.
Choisir le bon mot, c'est aussi se poser des questions sur quand on aborde des terrains un peu délicats. Et je pense au corps de votre père, qui est évidemment très présent dans ce livre, son corps vivant et son corps mort.
Quand je dis que je ne connais que les parties visibles de mon père, j'entends par là visible sa tête, ses mains, ses avant-bras, ses pieds. Mais j'ai jamais vu mon père torse nu. Je l'ai jamais vu en maillot de bain ou en slip. La seule chose qui m'a manqué à sa mort quand je suis allée le voir, c'est que j'avais envie, les mains. Et elles étaient sous le drap, donc ça a été un manque pour moi. Et la pudeur, c'est vraiment un langage. Hein. Je savais tout de mon père, sans qu'on se le dise forcément, mais juste avec un regard, ce que je raconte par rapport à la télévision. Enfin, dès qu'il y avait un baiser à la télé, tac, on zappait, ou il se raclait la gorge pour nous signifier qu'il arrivait. Donc mon frère et moi, on courait vite à la télévision pour changer de scène, pas de scène, mais de chaîne, pardon. Moi, je lis beaucoup plus de choses dans les silences de mes interlocuteurs ou dans les points de suspension que ce qui va m'être dit. Et je trouve que c'est un espace beaucoup plus beau à explorer que tout me soit livré comme ça en pâture. Et j'espère qu'il y a encore cet espace de mystère. Et c'est ça que j'aimais bien avec mon père, c'est qu'il y avait une grande part de mystère.
Et aussi, il y a un moment qui est assez furtif, mais que j'ai retenu.
C'est quand vous massez votre père, quand il est à l'hôpital, il est malade, il a perdu la mémoire.
Déjà, quand un corps est abîmé et l'esprit commence à foutre le camp, déjà, c'était une façon d'avoir un contact physique avec lui et d'envoyer cette énergie, mais c'était surtout une façon de le ramener à du tangible, à un corps qui est encore là. Ouais, certes, tu me regardes et je vois bien que t'es égaré, je vois bien que t'es perdu, je vois bien que tu sais plus très bien. Mais là, je vais prendre tes pieds, je vais les malaxer, je vais masser tes mollets et tu vas pouvoir déporter ton attention sur cette chose presque qui te pétrit et qui te dit que tu es bien là.
Mais pour vous aussi, vous vous dites
évidemment.
Ça.
Mais bien sûr pour moi. Et que sous mes doigts, je peux encore sentir le sang que je fais remonter en massant ses mollets, les veines que j'irrigue. Donc oui, évidemment, c'est pour moi lui et me faire sentir à cet instant-là qu'il est là, que je suis là et que par ce contact, on est ensemble. Et cette carcasse, comme il l'appelait, puisque à chaque fois qu'on lui demandait si ça va, il disait « Ah, ça va, là, le moral, ça va, c'est la carrosserie, ça va plus, il faudrait changer cette carrosserie. » Il parlait toujours de son corps comme d'une carrosserie. Et ben moi, cette carrosserie, ben, fallait que je la touche pour qu'elle tienne encore longtemps, même si... Même si le moteur commençait à fumer, la carrosserie, elle allait tenir, quoi. Elle allait être là.
Voici Mrs. Postman, morceau du duo texan Black Pumas.
Rachida Brakni, comédienne, autrice, est dans Tout est mic jusqu'à 10h. J'aimerais qu'on écoute la voix que vous avez choisie.
Oh.
C'est Alberto Giacometti.
Ben voilà. Alors, on ne va pas s'en rendre compte dans l'enregistrement sonore, mais s'il y a une chose que j'aime, c'est les mains. Et les mains de Giacometti, elles sont incroyables, elles sont belles. C'est des mains de travailleurs, les mains de Giacometti. C'est des grosses paluches qui sont, elles sont abîmées. Et les mains, oui, moi, c'est quelque chose qui me touche particulièrement, peut-être parce que mon père, il lui manquait deux doigts, mais ça dit tout, les mains. Et ce qu'il a fait de ses mains, avec sa statue « L'homme qui marche », c'est une des plus belles choses que j'ai vues de ma vie. On voit des pieds solidement ancrés et un corps qui s'étire, qui est dans le dénuement le plus total. Ça dit tout de la condition humaine. L'homme qui marche.
Alors, on va l'écouter.
Ah oui.
Alberto Giacometti, c'est extrait d'une interview de 1963.
Giacometti, on a aussi un peu l'impression que vos personnages sont très fragiles, très vulnérables.
Oui. C'est peut-être par là qu'il serait un petit peu ressemblant. J'ai toujours l'impression ou le sentiment de la fragilité, non ? Des êtres vivants. Comme s'ils devaient faire. À chaque instant, il faudrait une énergie formidable pour qu'ils puissent tenir debout instant par instant. Toujours dans la menace de s'écrouler. Et ça, je le ressens chaque fois que je travaille d'après nature.
Ce qui est aussi une façon de dire que vous les sentez menacés par la mort, par exemple.
Ben oui, évidemment. Ben, de certaines manières, je crois que qu'on fasse de la sculpture ou de la peinture ou qu'on écrive ou n'importe quelle activité de ce genre, c'est toujours pour donner une certaine permanence à ceux qui fuient, non ?
C'est trop beau. Mais il parle de l'équilibre. Et c'est vrai que dans L'homme qui marche, c'est presque le point, avant le point de rupture, avant le point de bascule où il pourrait s'écrouler. Et je trouve ça très juste ce qu'il dit, parce qu'il parle du coup de l'écriture aussi. Comment arriver à cet endroit, ce fil, sans jamais basculer d'un côté ou de l'autre.
C'est pas facile de trouver sa voix, V-O-I-X, aussi, quand on écrit, justement.
Comme c'est pas facile de trouver sa voix non plus, V-O-I-E.
C'est vrai.
Les deux aussi. Ben, je sais pas. Parce qu'en fait, sur l'écriture, ça fait maintenant quelques années que je fais ce métier, que je suis comédienne, pardon. Et en fait, je m'étais toujours interdit d'écrire parce que, je d'une part, trop respectueuse des écrivains que j'adore, mais... Mais j'ai dit, mais en fait, moi, voilà, moi, je suis faite pour dire les mots des autres. Et étonnamment, quand j'ai fait sauter ce verrou, ben, c'était pas si terrible que ça. Et je me dis, mais pourquoi ne l'ai-je pas fait avant ? Depuis, j'écris maintenant quotidiennement. C'est devenu presque une hygiène de vie, comme lire, comme écouter de la musique, comme... voilà.
Vous venez de me dire que vous étiez interdite pendant longtemps d'écrire, mais dans le livre, vous dites aussi que vous étiez interdite d'être comédienne.
Pas pour les mêmes raisons. Je me l'étais interdite parce que, avant de commencer, j'avais conscience de la précarité de ce métier. Hein, et je trouvais que, par égard pour mes parents, c'était pas cool, quoi. Au regard de tous les sacrifices qu'ils avaient faits, hein, ah, je pouvais pas leur faire ce coup. Je voulais avoir un métier qui me permettrait de les aider. Or, comédienne, je me disais, je suis pas sûre d'en être capable, quoi. Alors, ma chance, ça a été que eux n'avaient absolument pas conscience de ça. Donc, quand je leur ai dit que je voulais être comédienne, ils en étaient très, très heureux. Et ils pensaient que ça allait être cool, que j'allais gagner beaucoup d'argent, que... voilà. Mais je me l'étais interdit, en fait, je pense, par égard pour eux.
Il y a une phrase de lui... Vous rapportez assez peu de phrases de lui, mais il y a une phrase que vous rapportez. C'est à un moment où vous êtes dans un magasin avec lui et on lui fait un ourlet de pantalon. Et il vous dit, comme ça, je te ferai pas honte.
Je te ferai pas honte. C'était pour ma première à la Comédie Française. Ben, il avait voulu acheter un costume, se faire beau, évidemment, pour sa fille. Et ça m'a fait beaucoup de peine quand il m'a dit ça. J'ai jamais eu honte, ni de ce que j'étais. Même si, petite fille, je voulais être un peu Romy quand même. Mais très vite, je me suis dit, merde, il n'y a pas que Romy. Mais j'ai jamais eu honte ni de mon père, ni de ma mère. Mais en l'occurrence, par rapport à ce costume et à cette première à la Comédie Française, ce n'est pas de la honte. J'ai eu un peu de gêne ou d'embarras. Parce que pour lui, Ruy Blas de Victor Hugo, hein, c'était la folie des grandeurs. Et j'avais la même robe qu'Alice Sapritch. Donc... Il n'arrêtait pas de faire des... En plus, c'était une première, donc il y avait plein d'invités. Et j'étais un peu gênée, un peu embarrassée. Et en l'occurrence, pour rien au monde, j'aurais voulu vivre ce moment sans lui, quoi. En fait, j'aurais eu honte, moi, d'avoir honte de lui.
On passe à la carte blanche.
Alors, c'est un texte de René Ponce, qui est un poète du Sud. Il a écrit plein de choses. C'est un vieil homme que je connais pas plus que ça. J'adore la poésie. Donc, en fait, moi, j'adore aller dans les librairies. Et puis, il y a un titre qui m'interpelle ou au petit bonheur la chance, et j'ouvre. Et il y a une phrase qui me chope. Et donc, j'achète mes livres de poésie comme ça. Et c'est donc par hasard que j'ai découvert René Ponce. Et alors, j'ai choisi un petit extrait. Donc je vous le lis alors.
C'est parti.
Écrire est toujours une défaite. Bataille perdue face à l'indicible, face au temps, face à la mort, face à l'utopie de soi-même que l'on avait bâtie. Écrire, c'est nager en vain contre le courant d'un fleuve qui est plus puissant que nous. C'est attendre et perdre à jamais sa quiétude dans cette attente. C'est ensevelir sa parole dans un livre qui jaunit et se défait. C'est devenir une momie qui se dessèche sous ses bandelettes. C'est appeler sur soi l'attention d'un prochain que l'on exècre. C'est ouvrir une solitude que l'on aurait toujours dû garder close. C'est moudre sa propre chair et soumettre au vent la poussière de sa vanité. C'est se perdre dans la blancheur d'une banquise sans limite. C'est rouler devant soi un rocher de nuages jusqu'au sommet de l'incertitude. C'est perdre la raison en voulant raisonner. C'est remplir de rumeurs une jarre sans fond. C'est errer dans un labyrinthe où l'on croise son ombre dans des miroirs. C'est n'être plus que ce murmure dilué dans l'indifférence. C'est porter un masque rieur dont l'envers est couleur de deuil. C'est sans cesse vouloir se perdre pour devenir un autre que l'on cesserait de haïr. C'est être une pitié misérable à l'affût d'un oracle rétif. C'est être là, devant une page dont on ne peut pas s'arracher.
Merci beaucoup, Rachida Brakni.
Merci beaucoup, Rebecca. Merci, merci, merci.
Kadour, premier roman de Rachida Brakni, paraît le 6 mars. Le livre est publié par les éditions Stock. Koyan Guyen réalise Totemic et c'était avec Benjamin Wagon ce matin. Ilinka Negulesco a préparé l'émission, Perrine Malinge assure la programmation des invités et Jean-Baptiste Audibert choisit nos disques. La semaine prochaine, je vous emmène sur une île. C'est l'île Saint-Louis, dans l'appartement de Brigitte Fontaine.